Salut à tous, c'est Yannick, bienvenue sur la chaîne des chers players. Je suis très heureux de vous faire découvrir aujourd'hui Rise of the Ronin qui sort aujourd'hui sur PlayStation 5. C'est un jeu de la Team Ninja. La Team Ninja qui a été aux manettes des Dead or Alive, des Ninja Gaiden. Je pense que c'est leur série la plus emblématique à mon sens. Metroid Over M qui est un épisode sur de Metroid sur Wii que j'ai beaucoup aimé. Je crois que je suis un des seuls qui ait beaucoup aimé ce jeu. Mais ils sont également derrière les Nioh et le récent Wolong Fallen Dynasty. Ah, saturation. Ah ouais, mince, saturation du son. Hop. Désolé. En fait, je faisais des tests tout à l'heure parce que je fais une interview plus tard. Et du coup, je voulais tester avec le grain et j'ai oublié de le bouger. Voilà, donc ça devrait être beaucoup mieux maintenant. Effectivement, ça doit être mieux. Dites-moi si tout va bien, Parfait, merci les gars, on recommence. Donc ouais, c'est Rise of the Ronin, c'est une exclue PlayStation 5 développée par la Team Ninja, la team aux manettes de Dead or Alive, Ninja Gaiden, Nioh, Wolong. Et ils reviennent donc pour ce nouveau jeu qui m'intriguait pas mal. Et en fait, si je fais pas de test complet, si j'ai décidé de vous faire juste une vidéo découverte, c'est parce que je ne pense pas aller plus loin dans l'aventure et je vais vous expliquer pourquoi. Alors avant toute chose, on va pas tirer de conclusion, mais c'est pas un mauvais jeu non plus. C'est juste pour des questions personnelles. Je me dis, bon bah voilà, actuellement ce genre de jeu, c'est pas pour moi et je pensais que le jeu était autre chose que ça. Voilà, je pensais que le jeu était autre chose. Mais il est pas, il a plein de défauts, mais il a également plein de qualités. Donc je vais essayer un petit peu de faire la part des choses, voilà, pour vous situer comme ça, vous expliquer pourquoi en fait il n'y a pas un vrai test et pourquoi je vais pas donner un avis définitif. J'ai quand même lu pas mal de tests que je fais rarement, juste pour voir si mon ressenti était partagé par d'autres testeurs. Il a l'air d'être partagé par une grande majorité des tests que j'ai pu lire et des testeurs en qui j'ai confiance. Mais voilà, je vous préviens, c'est plus de la découverte, vous expliquer un peu ce que c'est le jeu et ses mécaniques plutôt qu'un vrai test. Je préfère être totalement transparent avec vous. Le jeu a actuellement un métacritique de 76 sur 100 critiques. Donc voilà, c'est plus ou moins l'idée que je me fais du jeu, sachant que 76, c'est moyen. Voilà, moyen bof. Voilà, sur l'échelle métacritique, bien sûr, pas 76 sur 20. Hop, je vais mettre ça un peu plus droit. Voilà, c'est un live lacustre. Pourquoi lacustre? C'est le non-test de Yannick, je suis dessus. Écoutez, j'espère que vous allez bien, tranquillement, une fois qu'on a posé les conditions de test. Oui, dernière chose, le jeu m'a été fourni par PlayStation France sur PlayStation 5 en version dématérialisée. Voilà, au moins, vous avez tous les éléments concernant le contexte du jeu. Je vais juste chapitrer. Mettez-vous bien dans le chat. J'espère que ceux qui regarderont en replay, ça va. Tout va bien pour vous aussi. Hop. Putain, je suis vraiment très, très maladroit. Hop. 0,5. Et là, on est à 0,835. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est Rise of the Ronin? En fait, Rise of the Ronin, c'est un jeu en monde ouvert qui reprend une structure de monde ouvert que je ne vais pas qualifier d'Ubisoftienne parce que je trouve que c'est un peu manquer de respect à Ubisoft, mais cet esprit monde ouvert un petit peu à l'ancienne avec plein de zones découpées dans lesquelles il y a plein de points d'intérêt. Je ne sais pas, sur la fin de capture, on voit, parce que j'ai quand même un petit peu avancé, j'ai joué quand même plusieurs heures au jeu. Mais en tout cas, voilà, là c'est le début du jeu, c'est assez linéaire, ça nous apprend les mécaniques, comme ça vous voyez un petit peu en même temps. Mais voilà, donc c'est un jeu en monde ouvert dans lequel vous incarnez, qui se passe au Japon du 19e siècle, donc un Japon qui est en pleine mutation, c'est la fin d'une époque, le début d'une autre époque, c'est le début des relations un peu tumultueuses et commerciales et pas forcément toujours cordiales avec le nouveau pays que sont les États-Unis d'Amérique. Donc on est à la fin d'une époque, et donc on est les lames secrètes, et les lames secrètes, voilà, c'est le héros et son frère ou sa sœur jumelle, et ça peut être l'héroïne et son frère ou sa sœur jumelle. Moi j'ai choisi les deux personnages de base, ils me plaisaient bien, ça me rappelait quand j'avais les cheveux longs Donc voilà, j'étais quand même pas aussi stylé que lui et ça me gonfle en fait. Mais bon, ça c'est un autre débat. Voilà, la fin de l'isolement du Japon, très très bien dit, mon ami le chieur, j'espère que tu vas bien. Enfin, c'est la fin de l'isolement du Japon et donc c'est le moment où il s'ouvre au monde. Évidemment, il y a beaucoup de tumulte intérieur et les lames secrètes sont une arme, enfin, sont utilisées entre guillemets pour justement bah, des missions un petit peu périlleuses et secrètes. Donc on a ça rien à je vois beaucoup de comparaisons avec Ghost of Tsushima. Oui, on est dans un Japon pré-industriel, si on peut dire ça comme ça. Oui, on est dans un monde ouvert et oui, il y a des comparaisons à faire, mais en tout cas dans le niveau du setting et de la psychologie des personnages, ça n'a rien à voir. En plus ici, on va te croiser, c'est bien indiqué en début de jeu, on va croiser des lieux et des personnages historiques, donc des gens qui ont vraiment existé, des lieux réels. Donc voilà, c'est assez important de le préciser. La Team Ninja, ils ont vraiment voulu ancrer le jeu dans une époque qui fait sens, avec un contexte géopolitique, social, cohérent, qui donne peut-être pour nous, les Occidentaux, une vision du Japon que l'on connaît moins. C'est la période de la fin de l'isolement. C'est très bien dit. Ouais, j'ai des cheveux, merci. C'est très bien dit. Du coup, c'est assez intéressant, en tout cas pour moi, européen, qui connaît l'histoire du Japon parce qu'on est attaché à ce pays par rapport aux jeux vidéo, aux mangas, mais on ne connaît pas toute l'histoire de ce pays-là. Donc franchement, ça c'est un bon point, je trouve, d'avoir utilisé cette période historique et ce contexte-là. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Une des premières missions, et on va le voir, ça va être d'infiltrer un bateau d'Américains. Et donc clairement, des fois on se dit, tiens, c'est marrant, là on a l'impression d'être un peu dans le Japon féodal, entre guillemets. Et en fait, non, on n'est pas dans un Japon féodal, on est dans un Japon qui sort d'une période féodale et qui justement est en pleine transition vers un Japon moderne. Et donc moi j'ai trouvé ça pour le coup, franchement j'ai trouvé même l'écriture plutôt intéressante, j'ai trouvé le contexte évidemment géographique, le Japon ça plaît toujours, moi ça me plaît, et surtout l'époque, et ce que ça veut nous dire sur un petit peu les périodes de transition. Alors toute proportion gardée, mais c'est un petit peu des thématiques qu'on a eues je trouve dans Red Dead Redemption 2. La période, en tout cas, où on a des protagonistes qui se trouvent à cheval entre deux époques, en fait, et qui doivent apprendre à s'adapter à une nouvelle époque. Enfin, c'est survival of the fittest, comme on dit, c'est voilà, c'est adapte-toi ou alors bah, tu disparais. Et donc, ça va être la thématique en fond de ce Rise of the Ronin. Et donc, moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Il y a aussi, bon, il y a une histoire de faction. Donc, il y a des. On est encore dans un shogunat, donc le règne du shogun, mais il y a aussi des factions qui sont opposées à ce shogun. Et au cours de l'aventure, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire allégeance soit au shogun, soit à ses ennemis, et ça aura des conséquences sur le gameplay et sur l'histoire. Alors les conséquences, elles sont du peu que j'ai vu, mais j'en ai beaucoup lu aussi sur des gens qui ont fini le jeu. Les conséquences, elles sont un petit peu, elles sont un peu en apparence. C'est-à-dire que vous aurez des fois des boss un peu différents ou certains compagnons d'armes qui vont disparaître ou vous rejoindre. Mais en tout cas, encore une fois, moi je salue le fait qu'il y a un vrai travail de mise en contexte et de vouloir impliquer le joueur dans cette époque et de nous donner le choix en fait de choisir pour quelle faction on veut rouler. Alors on peut même rouler pour les deux factions. C'est juste, a priori, ça change quand même pas grand-chose. Juste, au bout d'un moment, il va falloir faire un choix définitif. Mais ça, voilà, ça, encore une fois, ça permet d'impliquer le joueur et de l'imprégner dans cette époque, dans ce contexte géopolitique, dans ce contexte historique. Et moi, je trouve ça plutôt intéressant. Donc ça, ce sont des bons points. On va passer à la réalisation. Et là, alors, ce qu'on voit à l'écran, vous le voyez, c'est plutôt propre. C'est normal parce que ça, c'est un des premiers environnements du jeu. C'est très clos. Et ce qu'on remarque, c'est quand même, on a des animations qui sont quand même bien stylées, bien nerveuses de jeu. Alors, moi, j'ai mis en 60. Je crois qu'on a le choix. Oui, on a le choix, il me semble. J'oublie, moi, en fait, je le fais tellement directement dès que je vois performance. Je vois même pas ce qu'il y a à côté. Et du coup, je mets performance. Bon, on a un 60 FPS qui est très stable. Moi, j'ai pas eu de chute de framerate. Avec des belles animations, des beaux effets visuels à l'écran lors des combats avec les traces des lames, hop, qui sont parfaitement visibles et qui donnent un sentiment vraiment d'impact et une qualité aux mouvements qui sont appréciables. Mais c'est vrai que globalement, ça va être un petit peu le fil rouge de cette présentation de Rise of the Ronin, c'est que j'ai le sentiment que de la team Ninja, ils ont eu les yeux plus gros que le ventre parce que, voilà, vouloir faire un monde ouvert, c'est compliqué. Et globalement, le monde de, j'allais dire de Ghost of Tsushima, oups, non, de Rise of the Ronin, eh ben, il paraît fade. Il paraît fade dans ses textures, dans sa colorimétrie. Il n'y a rien de vraiment dégueulasse, mais il n'y a rien de vraiment transcendant. Même certains panoramas qui pourraient être jolis, on voit que c'est vraiment un aplat de JPEG avec le mont Fuji en fond pour nous dire hashtag le Japon quoi en fait. Donc c'est un petit peu compliqué. Alors je sais pas s'il aurait tourné sur PS4 le shirt comme d'habitude, je te trouve un petit peu difficile. Mais en tout cas ça, c'est vrai que c'est un jeu. On voit que c'est pas un jeu qui a mis tout son budget dans la réalisation. On voit que je pense pas que c'est un gros, je pense pas que c'est un triple A. Je pense que c'est la Team Ninja, c'est pas des grandes équipes, hein, il me semble. Je suis pas dedans, hein, mais voilà. Donc en tout cas, voilà. Des fois, dans les cinématiques, vous voyez, c'est plutôt joli. Les personnages sont bien détaillés. On voit les traits du visage, les cheveux. Voilà. Même là, y a des beaux effets. Mais in-game, ça reste assez moyen, voire médiocre. Je crois que là, quand je vais aller sous l'eau, vous allez vous rendre compte à quel point c'est pauvre, en fait. Et ça, c'est assez simple. Alors, c'est que de l'eau, hein, mais c'est pas de la vodka. Mais en tout cas, vous allez voir, voilà, c'est souvent un petit peu. Voilà, rien que de proposer de plonger sous l'eau, oui, certes, c'est utile pour certaines mécaniques d'infiltration, mais regardez la pauvreté quand on est sous l'eau, quoi. Alors, okay, voilà, c'est d'une pauvreté terrible. Là, c'est niveau PS3, là, sous l'eau. C'est niveau PS3, qu'on se le dise. Et des fois, alors, le jeu n'est pas moche, comme je l'ai dit, mais le jeu, en fait, manque un petit peu de charme. C'est vraiment. On est dans le décorum du Japon rural qui est pré-industriel. Donc, forcément, on va avoir des belles couleurs automnales et des fois des cerisiers, blablabla. Enfin, tout un petit peu, tout ce qu'on aime, un petit peu le côté carte postale. Mais derrière, quand on se penche un peu sur la technique, certes, le jeu est bien fluide et ça, on ne peut pas leur reprocher. Et personnellement, c'est quelque chose que je plébiscite. Je préfère un jeu un peu moins beau qui soit bien fluide. Mais c'est vrai qu'au-delà de la technique pure, l'artistique laisse un peu à désirer. On est dans quelque chose d'un petit peu sommaire. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. Donc le jeu se déroule en monde ouvert et vous allez avoir plein de choses à faire. Il y a plusieurs boucles de gameplay. La boucle de gameplay principale, c'est celle qu'on voit à l'écran, c'est celle des combats. Les combats, ils empruntent beaucoup à Nioh et un petit peu aussi à Wolong pour le système de contre. Globalement, le système de combat, il fonctionne bien. Il est assez punitif, il est quand même moins punitif que celui de Nioh, c'est clair, parce que, bon, comme on le voit ici, on sera souvent accompagné d'un autre personnage qui peut réanimer le premier. Et on a des fenêtres de contre qui sont un peu plus larges, même si j'y arrive pas vraiment, parce que c'était le tout début du jeu. Mais voilà, donc on a quand même le système de combat à la Nioh. Et je vous avoue, il y a certains boss qui m'ont fait. Et encore, j'ai fait que le début du jeu, j'ai fait que les premières heures. Mais certains boss, ils m'ont fait transpirer bien salement. Donc on est sur un système de combat avec un système de coups avec des petits combos qui font 3-4 coups, un système d'esquive avec rond, un système de garde, un système de parade parfaite qui peut, pour certains coups, notamment les coups en rouge. Donc on a vraiment tout l'attirail. On a également, bah, on a toujours deux sets d'armes possibles. Selon la classe qu'on choisit. Alors en fait, globalement, il y a quatre grandes familles. Il y a la force, l'intelligence, la dextérité et le charisme, je crois. Et donc selon où est-ce qu'on met nos points, on va être plus ou moins habile avec telle ou telle arme. Mais bon, je pense que des fois, il vaut mieux mettre une arme qui a des statistiques beaucoup plus élevées que l'arme pour laquelle on est faite, plutôt que de se forcer à jouer avec l'arme voilà, qui est propre à notre classe. Parce que des armes, nous allons ramasser beaucoup. Je reviendrai sur le loot après. Donc le système de combat, il fonctionne très bien. Seul petit bémol, malheureusement, comme dans beaucoup de jeux, et c'est quelque chose que j'ai pas mal critiqué récemment dans beaucoup de jeux, c'est parfois la caméra qui, dans une action frénétique, a un petit peu du mal à suivre. Enfin, j'allais dire, n'est pas Souls qui veut, mais même dans les Souls, des fois, on a aussi ce problème. On a tendance à dire que c'est des jeux parfaits, mais non, il y a aussi quelques petits soucis. Donc voilà, le combat, il est bien maîtrisé. On est dans quelque chose qui est. Alors, on n'est pas non plus dans l'exigence d'un Nioh. En tout cas, sur la majorité des mobs, c'est beaucoup plus simple. Sur les boss aussi, il y a aussi des niveaux de difficulté. Si vous galérez, là, j'ai joué en normal, mais je sais qu'il y a un mode facile et un mode difficile. Il y a même un quatrième mode de difficulté vraiment hardcore qui se débloque. Donc vous avez un petit peu le choix. Faut pas hésiter. Hein. Moi, je le dis toujours. On n'est pas là pour celle qui est la plus grosse. On est là pour s'amuser. Et ceux qui, si vous avez besoin de faire vos jeux en difficile pour kiffer, faites-les. Si vous avez besoin de les faire en facile, personne ne va vous juger, en tout cas pas sur cette chaîne. Moi, j'essaie au maximum de faire mes jeux en normal. Je pense que c'est l'expérience, entre guillemets, la plus représentative du jeu. Voilà, donc salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Merci beaucoup. Voilà, donc oui, alors je vois beaucoup de Ghost of Tsushima dans le chat, je parlerai un petit peu après. En tout cas, voilà, il y a aussi ce système de contre pour les armes à feu. Et regardez, quand vous contrez une balle de pistolet, ça enflamme votre épée. Et du coup, c'est pratique pour pouvoir ensuite enchaîner des combos un peu plus dévastateurs. Vous avez aussi des armes à feu, vous avez des shurikens, donc vous avez vraiment un arsenal qui est super grand. Pour pouvoir vraiment varier les combats. Non, tu vois, là, je me dis, je vais le tirer. Nah, je suis pas un lâche, moi, j'y vais comme un bonhomme. En fait, non, pas du tout, je vais esquiver le combat. Mais bon, bref. Sachez que les balles sont quand même limitées, parce que c'est bien cheaté, le fusil est bien cheaté. Un des bémols, donc, voilà, pour le système de combat, c'est largement opérationnel, et c'est à la portée de j'ai envie de dire, de presque tout le monde. Et si vraiment vous êtes dans la partie qui n'est pas dans le presque, ou le presque, je sais pas comment on peut. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le mode facile, éventuellement. Mais ça, vraiment, le combat, c'est une grande force du jeu. C'est toujours plaisant, c'est toujours intéressant de se concentrer. Il y a vraiment différents types d'attaques selon le type d'arme qu'on a, le spacing et tout. On est vraiment on est dans la lignée de Nioh, peut-être avec un peu moins d'exigence, ce qui est logique pour un jeu qui se veut un peu plus grand public et un jeu qui se veut comme un Assassin's Creed like. Voilà, donc je pense qu'ils ont fait le bon choix de niveau de dosage de la difficulté et en proposant des modes de difficulté. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc vous me voyez, je suis plutôt positif sur le jeu. Mais il y a plusieurs. Oui, il y a un grappin aussi, j'ai oublié de vous parler du grappin, qui va vous permettre de faire de faire Scorpion, là. Get over here, pour ceux qui ont la ref. Ou de balancer des tonneaux explosifs, parce que il y a des tonneaux explosifs un peu partout, parce qu'on est dans un jeu vidéo, et des barils rouges, il en faut, c'est un peu dans le cahier des charges. Mais c'est quand même sympa et ça dépanne bien, je dois l'avouer. Toujours est-il que ouais, on a un grappin qui va aussi vous permettre de monter en hauteur pour réaliser des assassinats furtifs. Puisque oui, le jeu emprunte beaucoup à Assassin's Creed et donc à Ghost of Tsushima, qui était lui-même un Assassin's Creed like. Vous me suivez. En attendant, l'Assassin's Creed au Japon, qui sera un Ghost of Tsushima et un Rise of the Ronin like. Bref, tout ça pour dire que il y a quelque chose qui m'a déplu dans le jeu, c'est le loot. Vous allez looter, mais littéralement, tellement de choses que des fois on se croirait dans Diablo. Coucou à Thibaut, que j'embrasse. Vraiment, il y a un million de trucs à looter. Vous pouvez pas faire, je sais pas, 5 minutes de jeu sans looter une nouvelle épée, un nouvel équipement et tout. Ce qui fait que j'ai passé un temps fou dans les menus à chaque fois à changer d'épée, à changer mon équipement. Honnêtement, dans ces cas-là, je pense qu'ils auraient dû faire tout simplement un bouton ou une combinaison de boutons pour optimiser l'équipement sans rentrer dans les menus. Ça aurait été beaucoup plus facile. Ça aurait été beaucoup plus simple, je pense. Donc, plutôt que de toujours constamment aller dans les menus, évidemment, tout le loot que vous avez en trop, vous pouvez le revendre ou le désassembler, parce qu'il y a des marchands. Enfin, c'est tout évidemment bien fait, mais trop, c'est trop. Il y a vraiment beaucoup trop de loot. C'est relou. Mais vraiment, quand je dis que c'est relou, c'est vraiment relou. Attendez, je vais passer une autre séquence, voilà, qui est un peu plus sympa, parce que celle qui fait arriver dans le monde ouvert. Voilà, on arrive dans le monde ouvert, comme ça, vous voyez un petit peu la réalisation, comme je vous ai dit. C'est pas moche. On peut pas dire que c'est moche, mais c'est vraiment classique. C'est vraiment. Il n'y a rien qui saute aux yeux, et forcément, après être passé après Ghost of Tsushima, c'est un petit peu difficile. Vous avez évidemment, comme dans les Souls, des soins. À chaque fois que vous allez, non pas un feu de camp, mais c'est les petits drapeaux, les petits mobs vont revenir, mais vous allez refaire le plein d'énergie et de consommables. Donc, c'est système Souls assez classique. Et voilà. Mais on est quand même dans un open world. Et qui dit open world? Dit, bah tiens, je vais pouvoir me promener. Et qui dit Assassin's Creed like dit infiltration. Et oui, vous allez pouvoir vous infiltrer. Donc, ça tombe bien. Il y a beaucoup de herbes hautes. De herbes hautes. Bon, oui, non, non, il y a le H, on ne fait pas la liaison. Bon, où est-ce que je vais? On le Z. Et donc voilà, il y a des herbes hautes, des ennemis qui sont bien, qui restent bien dos aux herbes hautes et qui regardent dans la mauvaise direction. Donc vous pouvez enchaîner les kills si vous avez le skills qu'il faut. Donc il y a vraiment ce côté Assassin's Creed aussi, d'autant que vous allez pouvoir grimper sur certains toits quand vous êtes en l'air, tomber sur les ennemis pour les tuer ou éventuellement les prendre avec votre grappin et leur couper la gorge. Donc c'est assez sympa. Le problème, c'est qu'en fait, ce jeu, il en fait trop. C'est-à-dire que il fait de l'Assassin's Creed, il fait du Nioh, il fait du Ghost of Tsushima, parce que c'est un petit peu entre les deux. Il fait du RPG avec des arbres des compétences. Il y a deux types d'XP différents. Un, c'est un petit peu, c'est l'XP que vous allez gagner. L'autre, c'est l'XP, on va dire un petit peu l'équivalent des Souls, que si vous tombez contre un ennemi, vous allez pouvoir le récupérer en vous vengeant de cet ennemi. Donc il y a deux types de compétences. Il y a les armes qu'on peut améliorer, les armes qu'on loot, les styles de jeu, les techniques. Rien que dans les menus, c'est déjà un gros bordel. C'est limite asphyxiant. Il y a des tutoriels pendant littéralement les 3-4 premières heures de jeu. Et vous pouvez faire ci, et vous pouvez faire ci, et vous pouvez faire ci, et vous pouvez faire ci. Donc c'est vraiment un jeu à système, mais comme je dis souvent, le mieux est souvent l'ennemi du bien. Et c'est un petit peu un proverbe qui sied bien à Rise of the Ronin. Ça rime en plus, j'ai même pas fait exprès, je suis incroyable. Et du coup, je suis un petit peu. J'ai eu vraiment l'impression d'avoir. Non, encore un nouveau truc, mais il y a ça aussi. Et voilà, les matériaux et machin. On n'en peut plus en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à vouloir mettre trop de trucs, ils ont fait un jeu très complet, mais trop complet, et qui. C'est vraiment le buffet à volonté de malbouffe. Je dirais pas de malbouffe non plus, mais. De bouffe pas très ouf, quoi. Genre le flunch. C'est bon, mais c'est pas de la gastronomie. Et buffet, je sais pas si ça existe encore le flunch. J'ai même un doute sur la majorité de mes viewers ne connaissent que l'existence du flunch. Est-ce que ça existe toujours? Et est-ce que c'est toujours des buffets à volonté? Parce que quand j'étais petit, c'était ça, un buffet à volonté. Tu pouvais te resservir tant que tu voulais. Et du coup, voilà, donc c'est un petit peu ça. Il y en a beaucoup, mais je trouve qu'il y a souvent beaucoup plus la quantité par rapport à la qualité. Et c'est un petit peu, c'est bon, c'est valable pour la direction artistique, c'est valable pour la technique. Alors, évidemment, regardez, il n'y a pas de ralentissement ni rien, mais derrière, on voit vraiment que c'est des aplats de JPEG et c'est, ça fait vraiment, on a l'impression vraiment d'être même malgré le monde ouvert, j'ai soit l'impression un peu de suffoquer à cause de ces aplats qui empêchent un peu d'avoir une perspective sur le monde dans lequel on se trouve. Et voilà, donc. Il y a tellement de systèmes, même pour bien maîtriser le système de combat, les armes, les postures, les machins, les consommables, les trucs à lancer, les pistolets, les épées, double épée, les bokken, les lances. Il y en a trop, en fait. Il y en a trop. Et clairement, le jeu nous en balance constamment. Alors, je trouve que les tutoriels arrivent quand même de façon. Ils n'arrivent pas tout d'un coup, donc ça, c'est plutôt pas mal, mais quand au bout de plusieurs heures de jeu, on a encore des fenêtres du tutoriel, et tu peux aussi faire ça, et tu peux aussi faire ça, et tu peux aussi faire ça, à la fin, t'es là, tu dis, mais en fait, j'aimerais juste en fait jouer à un truc. Je pense qu'il y a c'était légumes à volonté. Ouais, exactement, Lazarus, je vais afficher ton message. Je pense qu'ils ont visé trop grand par rapport à leurs moyens. Et bien, ce message, il est extrêmement juste, Lazarus, tu as tout dit, tu résumes un petit peu ma pensée. Je pense ils ont voulu bien faire. Et honnêtement, on peut pas. Alors là, regardez, je sais pas si on va aller dans les menus, mais il y a les postures, les armes secondaires, les armures, les pièces d'équipement. Vous avez des pièces d'équipement avec des stats, des bonus, des sous-bonus. C'est trop en fait, c'est trop, c'est vraiment trop. Voilà, la page de stats, la page de style de combat, il y a la page de liens, les liens que vous faites avec les gens, avec les villages, avec les trucs. Alors, par contre, dans ces menus, ce qui est top, c'est l'encyclopédie qui va vous résumer un petit peu tout, donner des fiches de personnages, des fiches de lieux, des fiches de. Ça, c'est vraiment bien, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup quand les jeux, en fait, ils proposent une encyclopédie, parce que des fois, on arrête de jouer, on ne se rappelle plus. FF16, c'était un de ses rares points forts. Et là aussi, c'est très très sympa, ça aussi, ce qu'ils ont proposé dans Rise of the Ronin. Donc voilà, pour vous rappeler un petit peu qui est qui vous êtes, ce que vous devez faire, le contexte, etc. etc. Vous avez un cheval, comme vous le voyez, c'est pas qu'il est pas maniable, c'est peut-être qu'il a trop bu, ou c'est peut-être moi qui avais trop bu. Non, j'ai même pas bu, donc non, c'est juste que, voilà, il y a un cheval, il est là, Mais regardez la physique qu'il a, on dirait qu'il touche même pas le sol. Et bon, il est là parce que c'est plus facile de se déplacer à cheval. Et c'est un peu tout comme ça. C'est, allez, on met le truc. On met le truc, ça marche. Et on continue. Et on n'essaye pas de peaufiner les choses. Donc on a toujours l'impression qu'ils ont mis beaucoup de choses, mais que il n'y a pas grand-chose qui fonctionne très très bien. Mis à part le combat, qui est, je trouve, bon. Qui est bon. Je pense qu'on est sur les bases de Nio et de Wolong. Donc c'est quelque chose de solide. Et qui ont adapté leur difficulté sans non plus la trahir, parce que c'est pas un jeu facile dans les combats. Mais voilà. Pour le reste, on est toujours dans... J'ai déjà fait ça 50 fois, j'ai déjà fait ça mieux, j'ai déjà vu mieux 50 fois dans ma vie. Vraiment. Donc là, quand on regarde la technique, vous voyez, on peut pas dire que le jeu, il est beau. Voilà. On peut pas dire que le jeu, il est beau. C'est vraiment... Les éclairages, ils sont pas beaux du tout. Enfin, ils sont vraiment génériques. C'est vraiment le béaba de l'éclairage. Ok, il y a les herbes hautes, avec le même mouvement du vent constant. Et puis c'est tout en fait. Et puis derrière, on va avoir une mer qui est générique au possible, des rochers génériques. Donc techniquement, artistiquement, c'est vraiment pas ouf et c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu triste, mais bon, on le sait, c'est un double A. C'est pas une grande équipe. Ils ont jamais fait des jeux de triple A, quadruple A, grande envergure. Donc ça, à la limite, moi, je peux passer à côté. Parce que de toute façon, si je veux un beau jeu dans la campagne japonaise pré-industrielle, je lance Ghost of Tsushima et là, je m'en mets plein les yeux. Par contre, c'est au point de vue de tout le reste, de vouloir implémenter un Assassin's Creed, du loot à foison, du Nioh, du RPG avec 1 million de stats, des systèmes, de sous-systèmes. Au final, il y en a tellement trop. Et quand je me suis posé au bout d'un moment, je me suis dit... Mais en fait, ouais, ok, en plus la carte, elle est immense, elle est bourrée. Je sais pas si on va le voir dans cette capture, parce que j'aime pas capturer les trucs, je préfère le début du jeu, comme surtout sur un truc découverte. Mais au bout d'un moment, j'ai ouvert la carte, j'ai dit, waouh, putain, j'ai rien vu de la carte, il y a autant d'icônes. Alors, ouais, c'est pas non plus. On n'est pas dans Assassin's Creed Unity pour reprendre les pires exemples de l'histoire, mais quand même, on est dans une carte vraiment découpée en secteurs et tout. À l'Assassin's Creed à l'ancienne, vraiment, c'est vraiment la carte avec les secteurs, les trucs. Et puis il y a les endroits que vous devez délivrer, comme ces villages. Regardez, une fois que j'aurai battu le dernier voyou, donc voilà, c'est juste un mec. C'est quoi ton job? C'est voyou, je suis sur un rocher, j'envoie des flèches illimitées sur les gens. Ouais, c'est un job de l'époque, voilà quoi. Aujourd'hui on appelle ça guetteur, mais c'est pas exactement pareil. Mais bref, une fois que j'aurai battu ce dernier gredin, ce chenapan. Ce vieux puant avec son sabre, j'ai battu les ennemis. Hop, ben là, il y a une petite transition qui se passe à Assassin's Creed 2. Ah, mais voilà, en plus, il y a des histoires de karma, j'avais oublié ça, le Karmagus. Battre les ennemis, le karma, quand le karma est son maximum, ça vous permettait d'interagir, vous avez un bonus. Oh là là, au bout d'un moment, ça fait mal à la tête, sérieux. Vous dites, mais il y en a trop, en fait. Tout ce qu'il y a à retenir et tout, voilà, donc. Voilà, donc c'est vraiment c'est trop voilà. Ça c'est les arbres de compétences, la force soit avec toi. Je vais avancer un peu parce que je pense que j'ai passé pas mal de temps. Force, l'intelligence, la dextérité, l'animalité. Non, je rigole. Donc voilà, après derrière, ouais, c'est tout plat, c'est plat, c'est un peu flou, c'est ça clignote, ouais, c'est comme ça. Donc mon avis, il est... Si vous aimez, en fait, c'est clair, si vous aimez le type de jeu à la Nioh, vraiment, je dis pas les Souls, hein, parce que les Nioh, ça se rapproche des Souls, mais c'est un style un peu à part. Si vous aimez un peu ce style de jeu, moi, je vous conseille d'y aller. Regardez, là, par contre, on a la technique. Waouh, c'est bon, on joue dans plein écran, là. C'est pas ouf, on est d'accord, quoi. Franchement, quand on voit les Yakuza à côté, ça fait un peu pitié, quoi. Donc, bon, ok, où est-ce que je peux me procurer un passeport? J'ai dû aller faire pipi là, je pense. Vu le temps que j'ai passé à réfléchir. Donc pareil, voilà, battre les ennemis. C'est peut-être que là, il y avait une séquence. Non, ouais, j'ai voulu l'infiltration. Qui n'a pas marché, parce que monsieur avec son espèce de porte en bois, là, c'est la paire, le mec. Les fenêtres et tout. Il vous les amène sur mesure. Mais ouais, donc c'est pareil, on nettoie des camps et tout. Et bon, moi, le problème, c'est que j'ai eu l'impression de faire ce jeu déjà des tonnes de fois dans ma vie et de faire toujours un peu quoi qu'il propose, j'ai trouvé mieux ailleurs. Et du coup, en assemblant des boucles de gameplay qui sont moyennes, qui vont du médiocre au sympathique, sans jamais vraiment exceller nulle part, mis à part peut-être les combats, oui, les combats, mais là encore, on a déjà vu mieux hein, dans les combats. Dans ce style-là, on a déjà vu mieux. Je pense même qu'un Nioh est mieux, niveau plus combat pur, sans parler d'un Souls, etc. Donc en fait, ils ont assemblé plein de trucs au sein d'un monde ouvert très crafté à l'ancienne, j'ai envie de dire. Donc voilà. Alors à qui ça peut plaire? Je pense vraiment aux fans du Japon, aux fans hardcore du Japon, parce que ça se situe dans un contexte géopolitique et social assez intéressant, la fin de l'isolation du Japon. Donc si vous êtes vraiment fan du Japon, la période historique est bien racontée, il y a beaucoup de personnages qui ont vraiment existé, et je pense que c'est bien, ça pour le coup c'est bien fait. Donc à ces personnes-là, je dirais oui, foncez. À ceux qui aiment vraiment la Team Ninja, et je sais qu'il y a des fans de la Team Ninja, des Ninja Gaiden, des Nioh et des Wolong, enfin du Wolong, bah eux pareil, mais ils s'y retrouveront dans le système de combat, donc à base de contre, d'esquive, de jauge d'endurance, donc tous ces codes-là, bah, ils les retrouveront et je pense qu'ils seront contents de les retrouver. Et à ceux qui sont peut-être nostalgiques des anciens Assassin's Creed, ceux qui n'ont pas eu l'overdose qu'on a tous eu, des jeux en monde ouvert, craftés tous de la même façon, bah celui-là, il est vraiment crafté comme un jeu PS3, PS4. Vraiment, il fait monde ouvert PS3, PS4. Il fait pas du tout moderne dans sa conception, dans son découpage, dans son approche. C'est vraiment le monde ouvert à l'ancienne. Donc, plein d'icônes, plein de... finalement, on suit toujours un chemin assez balisé. On fait beaucoup de déplacements rapides et il y a beaucoup d'endroits où faire du déplacement rapide, ça prouve qu'eux-mêmes ont compris que le parcours de leur monde n'était pas ouf. Donc voilà. S'il vous plaît, citez pas de nom dans le chat, s'il vous plaît. Je veux pas qu'il y ait des noms de gens, etc. Surtout que moi, j'ai vraiment, je m'entends bien avec tout le monde. J'ai pas envie après que les gens ils se disent ouais dans ton chat. Donc hop, genre j'enlève la petite boutade. C'est pas méchant, mais je préfère pas de. Pas de soucis avec les uns les autres parce que c'est toujours froissant quoi. J'arrive pas à me rendormir, faut que j'aille déjeuner. Il n'y a pas une meuf dans le chat qui va me préparer un déjeuner. Alors ça aussi, ça, hop. Ça dégage de mon chat. Des conneries pareil. Merci. Et du coup, voilà. Tous les avis, le tien confirme une chose, rien qui me donne envie de donner de mon temps pour ce jeu. Voilà. Donc oui, mais c'est vrai. Elle a regardé le nombre de trucs que j'ai récupérés en l'espace de 5 minutes, le nombre d'armes que je vends, que je reprends pour après racheter. Oh là là, c'est beaucoup trop. Donc alors, la question du prix, c'est toujours délicat. Le but, c'est pas de... Je pense que tous le jeu vidéo a son prix, c'est les prix qui sont fixés. Maintenant, là, regardez, ça c'est une part... Ça c'est tout le début du jeu. Et je vais revenir sur la map, regardez. C'est le tout début du jeu. Reviens là, toi. Hop. C'est minuscule. Enfin, cette zone, elle est minuscule par rapport au terrain de jeu. Là, on est dans un Assassin's Creed avec... Vous êtes dans telle zone, il y a telle chose à faire, telle chose à faire. Vous pouvez vous téléporter là, téléporter là. Il y a un chat là qui se retrouve ici aussi. Je ne sais pas trop ce qu'il fait là. Bon, bref, donc... Donc voilà, pour moi, c'est un jeu très moyen. C'est un jeu très moyen. Alors oui, il y a des déplacements deltaplane. En fait, c'est une paravoile, sauf que c'est un deltaplane, oui. Oui, il y a ça aussi. Ça arrive un peu plus tard. Honnêtement, c'est un jeu moyen qui n'excelle nulle part et qui donne vraiment pas... Moi, j'ai pas vraiment envie d'aller plus loin pour l'instant. Je dis pas que j'y reviendrai pas le jour où j'aurais peut-être pas eu ma dose de... où j'aurais besoin de ma dose de Japon médiéval et d'Assassin's Creed like et tout. Mais en l'état, honnêtement, dans cette proposition-là, vous avez beaucoup mieux. Je vais finir par une comparaison, certes un peu forcée avec Ghost of Tsushima. Je pense que Ghost of Tsushima fait tout en mieux, clairement, esthétiquement. Techniquement, artistiquement, dans le gameplay, dans son rythme, dans ses mécaniques, dans son équilibrage. Si vous n'avez pas fait Ghost of Tsushima, il est magnifique sur PS5. à choisir, faites Ghost of Tsushima. Je trouve qu'il est moins bien que certains Assassin's Creed. Il est même moins bien que. Je sais pas s'ils ont voulu peut-être faire du Elden Ring aussi, se dire tiens, on a une formule de Souls avec Nioh. Tiens, on va passer en monde ouvert. Mais en fait, ils ont fait. C'est anachronique en fait. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire un espèce de Souls-like en monde ouvert, sauf que tout est dirigiste à la Assassin's Creed et finalement, bah, l'amalgame, je trouve, ne fonctionne pas très bien. C'est un jeu, j'aurais vraiment du mal à vous le recommander, surtout qu'il y a plein de petites pépites qui sortent cette année ou qui sont sorties les années d'avant. Je trouve que clairement, dans la proposition, c'est très différent, hein, mais Dragon's Dogma, sans être parfait, et je vais mettre un carton rouge à Dragon's Dogma, bougez pas. J'ai failli oublier. Mais quand même, mis à part le carton rouge que je vais mettre, Dragon's Dogma est une proposition beaucoup plus intéressante parce que j'ai beaucoup plus. Là, j'ai eu l'impression de jouer en pilote automatique, un truc que j'avais déjà fait 1000 fois dans ma vie de joueur, et j'en avais plus envie de faire ça. C'est l'overdose. Surtout que c'est que, comme j'ai dit, il excelle nulle part. Par contre, Dragon's Dogma a la qualité de vraiment tenter des trucs. Il y a plein de trucs. Ah ouais, il excelle pas surtout avec Dragon's Dogma, mais dans le monde ouvert, dans le systémique, dans justement. Moi j'ai vu des critiques qui parlaient du pathfinding horrible. Mais non, c'est top le pathfinding justement quand tu dois regarder ta carte, regarder ton environnement ou suivre un pion qui a le truc. Donc je trouve que Dragon's Dogma a une proposition pour un jeu d'aventure en monde ouvert. Allez, mettons-les dans. Mais ils n'ont rien à voir hein, dans les boucles de gameplay, mais on peut quand même les rapprocher sur la structure ouverte. Je trouve que Dragon's Dogma est beaucoup plus intéressant. Maintenant, voilà, Rise of the Ronin, c'est quand même compliqué, je vais être honnête, c'est quand même compliqué. Il a des qualités, mais il est quand même grévé par beaucoup de médiocrité qui un petit peu prennent l'ascendant sur les qualités. Le carton que je veux mettre, le carton rouge, rouge à Capcom, c'est que une fois les tests sortis, ils ont implémenté un système de microtransactions dont nous n'avons pas eu écho avant la sortie, nous les testeurs. Et c'est des microtransactions qui peuvent être potentiellement très utiles parce que ça vous permet de gagner du temps, sachant qu'un des défauts que j'ai donné à Dragon's Dogma, c'est le côté pénibilité. C'est assez pénible en fait, parce qu'il y a beaucoup de voyages, et ils sont souvent compliqués, éreintants, vous faites bolosser pendant les voyages, et donc vous avez pas mal de raccourcis justement pour avoir des pierres. Je me suis toujours dit, tiens, c'est bizarre, les pierres pour stepper, elles coûtent quand même très cher. Ben maintenant, je comprends pourquoi. Parce qu'on vous propose d'acheter des pierres avec du vrai argent. C'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. Donc, ce qui est carton rouge pour Dragon's Dogma là-dessus, ça n'empêche pas que c'est un grand jeu et que moi, j'ai fait plus de 30 heures sans utiliser aucune microtransaction. Mais on sent quand même que l'economic designer a dû imposer certains choix aux développeurs du jeu. Et ça, c'est problématique. Des problématiques qui m'énervent. Parce que pendant le jeu, je me suis dit, mais c'est con quand même que tu vois qu'on me fasse faire des allers-retours. En fait, dans les 30 et quelques, on va dire 35 heures peut-être de jeu que j'ai pu avoir sur Dragon's Dogma, il y a plein de fois où je me suis dit, mais putain, en fait, sur ces 35 heures, j'ai passé beaucoup de temps à faire des allers-retours, à faire des combats un peu inutiles. Tout ça parce que j'avais pas l'argent pour m'acheter des pierres de TP. Parce que si j'avais eu des pierres de TP, ben, je trouve que l'aventure aurait été mieux rythmée. Ça m'aurait pas empêché de faire des. J'aurais pas abusé du TP non plus parce que le monde est intéressant, on a envie de le voir, il y a des choses qui se passent et tout. Mais des fois, vous avez des quêtes, va là, il revient, il repart, il revient, il repart. Vous êtes sur des chemins où il y a des tonnes d'ennemis et c'est assez chiant. Et je dis, ah putain, j'ai pas la pierre, et 10 000, c'est trop cher. Et non, ben, du coup, et mon vieil, c'est pas possible. Et en fait, ben là, d'un coup, ah ben non, mais les pierres, tu peux les acheter. Et non, c'est pas bon. Ah non, les calculs, ils sont pas bons, Kevin Capcom. Hein. Ils sont pas bons du tout. Donc voilà, c'était ni fait ni à faire. Ils en font pour pas mal de jeux, mais je trouve que là, Capcom, c'est pas ouf ce que vous avez fait. C'est pas ouf. Je vous le dis, c'est pas ouf. C'est pas du tout ouf. Et si j'avais dû, si je devais vraiment refaire le test aujourd'hui, je serais moins complaisant parce que ce que je prenais pour tiens, c'est une vraie volonté artistique de vouloir rendre tout pénible. En fait, là, j'arrive pas à me dire. Que c'est pas, tiens, l'economic designer qui a dit, attends, mais rends le voyage bien pénible. Parce que je comprenais pas, je me dis, ça n'a pas de sens, en fait, de rendre les déplacements aussi longs, aussi pénibles, qu'il y ait aussi peu de moyens de TP, et que ça coûte si cher. En fait, quelque part, dans ma tête, je crois que ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, bah non, il n'y a aucune trace d'une quelconque boutique. Bah non, mise à jour, t'implémentes la boutique après, les testeurs, on l'a dans le baba. Non, ça, c'est pas cool du tout. Donc voilà, juste, bon, ça n'empêche pas que le jeu est très bon et que je le préfère à Rise of the Ronin, même si ce sont deux propositions très différentes, mais c'est deux jeux qui sortent cette semaine. Mais voilà, donc bon, c'était juste pour vous prévenir. Rise of the Ronin, pour conclure, c'est un jeu très moyen c'est un jeu très moyen. Donc c'est un jeu très moyen qui n'excelle vraiment nulle part et qui, je pense, aura du mal à trouver un public comme ça. Donc un public à qui ça plaît vraiment. Donc voilà. Alors c'était comme ça dans le 1, ok. Mais je pense que même si c'était comme ça dans le 1, je pense que c'est pas. Je pense que tu. Là, je sais pas si t'as touché aux deux, mais c'est d'autant plus pénible, quoi. C'était une piste d'amélioration et on dirait qu'ils ont continué à faire ça. Donc voilà. Bon, en tout cas. En tout cas, je suis quand même content de vous avoir présenté ce. J'ai perdu le fil. Des fois, ça m'arrive, j'ai perdu le fil. Non, je suis content de vous avoir présenté Rise of the Ronin. Peut-être qu'il trouvera son public, mais je pense que ça restera de la niche et de la niche. Et clairement, côté exclu éditeur tiers chez Sony, on a eu Rebirth, il y a Ronin, il y a Stellar Blade qui arrive. Moi, j'attends pas mal Stellar Blade quand même. J'espère que je serai un peu plus rassasié. Paradoxalement, il m'a laissé sur ma faim parce que justement, il m'a trop donné à manger. Il m'a trop donné à manger, donc il me laisse sur ma faim. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous donne rendez-vous dimanche soir. On va faire une émission magazine avec Thibaut et je ne sais pas qui. Je demanderai peut-être à des gens de la commu s'ils veulent venir. Où on vous parlera des sorties de la semaine, des news de la semaine et on fera une thématique. Parce que je pense que la thématique, elle est peut-être pas assez grande pour faire toute une émission. Voilà, mais ça sera le gros titre. Hein, ça sera, je pense, est-ce que l'avenir du jeu console est sur PC? Un bon thème ça, hein, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, je vous retrouve dimanche soir pour l'émission. Et il y a peut-être une interview bien sympathique. C'est marrant, tous ces décors me rappellent une pochette d'album emblématique. Et il y aura peut-être quelque chose en lien avec ça dans un prochain contenu. Donc voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne des Chers Players. Merci à tous, passez un bon vendredi, un bon week-end, à dimanche soir. Salut à tous, ciao ciao!